Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec Manon, Ella et moi-même, nous recevons Madame Goulet, députée nivernaise, pour parler de la représentation des femmes en politique. Bonjour Madame Goulet. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter ?
Bonjour. Alors, je m'appelle Perrine Goulet et je suis députée de la première circonscription de la Nièvre depuis 2017.
Durant votre carrière, vous êtes-vous donc sentie impactée, voire handicapée par votre statut donc de femme ?
Alors, dans la carrière politique, handicapée, je ne sais pas, mais en tous les cas, il faut toujours faire plus pour arriver au même résultat. On demande toujours, je trouve, même encore maintenant, malgré que l'Assemblée nationale soit un peu plus féminisée, puisqu'on a 37% de femmes, on voit bien qu'il faut quand même montrer plus d'efforts pour avoir certains postes. Et il faut vraiment qu'on arrive à lutter. Quand on voit à l'Assemblée nationale que la première femme présidente ne date que de 2022, il y a encore un petit peu de travail. Et dans ma carrière professionnelle, avant la politique, je travaillais dans le nucléaire, donc un milieu quand même assez masculin. Et j'ai été manager d'une équipe, et une manager d'une équipe que d'hommes. Et là aussi, il faut savoir s'imposer, avoir du caractère, et je pense qu'on a moins le droit à l'erreur que les hommes. Mais par contre, je pense que même si c'est plus compliqué, ça se fait et ça se réalise. Et c'est vraiment le message que je veux passer. Avec un petit peu de caractère, un peu de travail, on y arrive. Donc, mesdames, n'hésitez pas.
Et dans ce contexte-ci, est-ce que vous avez déjà eu ou est-ce que vous avez encore des dossiers considérés comme moins importants qu'un homme ?
Je ne sais pas si on peut dire des dossiers moins importants qu'un homme. Moi, je me suis orientée vers la partie droit des enfants. Donc déjà, ça me catalogue, parce que quand on regarde un petit peu la présence dans la délégation aux droits des enfants que j'ai l'honneur de présider à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de femmes, un petit peu d'hommes, mais vraiment beaucoup de femmes. Mais c'est mon choix de m'orienter vers les droits des enfants, et je savais que c'était quelque chose plutôt vu comme féminin, même si je le regrette. Voilà, donc moi je le vis pas mal, parce que c'est mon choix.
Vous êtes députée, pensez-vous avoir eu plus de mal à accéder à votre poste actuel que par rapport à un homme ?
Alors non, pas du tout pour le coup, parce que mon élection a eu lieu dans le contexte 2017, avec la volonté d'Emmanuel Macron de justement faire rentrer des femmes à l'Assemblée nationale pour avoir plus de parité. Donc il y a eu une candidature sur dossier auprès de la cellule d'En Marche, et ils ont fait attention à mettre autant de femmes que d'hommes dans des positions éligibles. Parce que souvent aussi, ce qui peut arriver avec certains partis, c'est qu'ils mettent des femmes pour remplir leur quota au niveau de l'élection, en disant on a bien eu la parité, sauf qu'ils vont mettre des femmes sur des circonscriptions qui sont non gagnables, entre guillemets, où on sait que notre parti ne gagnera pas dans cette circonscription-là. Emmanuel Macron a fait quelque chose, je trouve, d'assez intéressant à ce moment-là, c'est qu'il a quand même eu la présence d'esprit de regarder ce qui pouvait être gagnable et de mettre des filles, des femmes, dans des circonscriptions gagnables. Ce qui fait qu'on a, côté à l'époque En Marche, une belle arrivée de femmes en 2017. Donc voilà, moi ça ne m'a pas pesé parce que je suis passée par un dispositif particulier qui était le dispositif de recrutement d'En Marche. Par contre, les femmes qui passent par, j'allais dire, les partis traditionnels, et on le voit dans l'Assemblée nationale, comme les Républicains ou genre chose, on voit qu'il y a quand même moins de femmes parce que je pense qu'on les a mis sur des circonscriptions non gagnables.
D'accord. Et toujours en rapport avec donc notre thème de la parité politique, est-ce qu'il y a un événement qui vous a particulièrement marqué ?
Oui, alors sur la parité, hein, on est oui. Bien d'accord. Au-delà de la parité, on a une jeune collègue qui est arrivée en 2022 suite à son élection et qui a réussi à faire installer un buste à la mémoire de Simone Veil dans l'Assemblée nationale, dans les locaux de l'Assemblée nationale. Normalement, à l'Assemblée nationale, il n'y a que des bustes de députés, il n'y a que deux bustes de femmes, et dont Simone Veil, qui vient d'être installée, mais elle ne peut pas être dans les locaux, puisqu'elle n'a jamais été députée, donc elle est à côté. Et l'autre buste, c'est Olympe de Gouges. Mais vous voyez que, même sur la représentation dans les locaux de l'Assemblée nationale, il y a encore des choses à faire, mais vraiment, je trouvais que c'était une belle symbolique que le buste de Simone Veil arrive dans les jardins de l'Assemblée nationale.
Et que pensez-vous de l'introduction des quotas de genre pour assurer une représentation équilibrée au sein des instances politiques ?
Alors, je pense qu'il le fallait, parce que malheureusement, ça ne serait pas fait tout seul. J'en suis convaincue. Mais par la suite, je pense que dans quelques années, ces quotas sauveront les hommes. Parce que moi, je pense que les femmes vont finir par être plus nombreuses que les hommes. Donc les quotas sauveront les hommes, je pense, à moi. Donc je pense qu'il est important. Et pourquoi je pense que c'est important, au-delà de la représentativité et de cette petite guerre femmes-hommes, comme je viens de le dire en souriant, c'est surtout que notre pays est composé d'hommes et de femmes, de transgenres, d'hétérosexuels, d'homosexuels. Et je pense qu'on a besoin que cette représentativité soit effective dans les lieux comme l'Assemblée nationale. Et donc, on peinait à avoir des femmes à l'Assemblée nationale, donc je pense qu'ils sont nécessaires, ces quotas.
Oui, donc pour l'instant, ils sont utiles et ils seraient respectés.
Alors, respectés, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Ils sont à peu près respectés au moment du dépôt des candidatures. Mais après, en fonction de là où on met un tel ou une telle, à la fin, on peut avoir plus d'hommes que de femmes.
Oui.
Mais moi, je ne perds pas espoir qu'à la fin, on y arrive. Mais oui, pour le moment, c'est encore obligatoire, les quotas, j'en suis convaincue, et y compris au niveau du gouvernement, parce que d'ailleurs, on le voit encore ces jours-ci, les gros postes sont beaucoup tenus par des hommes, et souvent, les plus petits postes régaliens sont plutôt tenus par des femmes. Et heureusement qu'on a cette parité, cette obligation de parité, parce que je ne sais pas si on aurait autant de femmes au gouvernement, si on n'avait pas la parité. Donc oui, je pense que c'est important de continuer à avoir ces quotas pendant quelques années. En tout cas, je pense, tant que votre génération n'arrivera pas, j'allais dire, au pouvoir, parce que votre génération n'a pas cette vision, je trouve, de cette différence fille-garçon. Je trouve que vous êtes beaucoup plus ouverts sur toutes ces notions de genre, d'égalité filles-garçons. J'ai l'impression que vous êtes moins dans cette relation difficile entre garçons et filles.
C'est vrai, je pense, oui.
Oui, je pense vraiment. Et je pense que vous avez vraiment beaucoup à apporter. Et c'est peut-être vous qui enlèverez cette parité, parce que vous arriverez naturellement à emmener cette égalité partout.
Et de par votre expérience, pourriez-vous nous dire quelles sont les causes qui font qu'il est plus difficile pour une femme d'entrer en politique ?
Je pense que la première cause, c'est les femmes elles-mêmes. Je vois l'une de vous qui sourit. Les jeunes filles ont souvent moins confiance en elles et elles se limitent peut-être plus que les garçons. Je pense que ça vient aussi de l'éducation qu'on reçoit. C'est pour ça qu'on se bat pour lutter contre les stéréotypes de genre des petits. Quand on voit que 78% des héros de livres sont masculins dans les livres pour enfants, on voit qu'il y a encore un petit peu de travail. Et ça commence par là.
Oui, il y a une forme d'autocensure.
C'est ça. Une autocensure, mais qui est portée parce que, depuis toute petite, voilà, on voit souvent dans le livre, alors ça commence à évoluer, heureusement, mais pendant longtemps, papa travaille, maman est à la maison, s'occupe des enfants, et maman, c'est pas très bien vu, si elle a une carrière, il faut quand même s'occuper des enfants. Je trouve d'ailleurs assez dangereux ce qui est en train d'être joué un peu sur les réseaux sociaux, avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que c'est en anglais, je ne suis pas très bon en anglais, mais avec cette résurgence de dire la femme doit être au foyer et s'occuper des enfants, une femme, sa place est au foyer. On voit aux États-Unis comme ça un élan, et en général, quand ça arrive aux États-Unis, ça arrive chez nous, et je trouve ça très dangereux, parce qu'une femme qui n'a pas son autonomie, qui n'a pas de travail, elle est dépendante de son mari, et quand on est dépendant de quelqu'un, tout peut arriver. Donc voilà, moi je pense que vraiment le premier frein pour les filles, c'est elles-mêmes. Donc il faut qu'on lutte pour qu'elles prennent confiance en elles et qu'elles pensent que tous les métiers sont possibles pour elles. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la politique est portée beaucoup par des personnes un peu âgées. Je pense qu'il faut le dire. Même moi, vous voyez, j'ai une trentaine d'années de plus que vous, donc voilà. Mais il y a encore des bien plus âgés que moi à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'ils ont été élevés dans cette vision de la famille, monsieur travaille, madame est à la maison. Donc il faut qu'on pousse pour que ça change. D'ailleurs, nous, à l'Assemblée nationale, on a réussi à faire créer une délégation aux droits des enfants. Je me suis entretenue avec plusieurs sénateurs et sénatrices pour leur dire « faites la même chose à l'Assemblée nationale, au Sénat, c'est important ». Et j'ai vu plusieurs sénatrices qui m'ont dit « non, mais nous, on a une délégation aux droits des femmes, ils vont gérer les enfants ». Voilà. Je pense que là, tout était dit, c'est-à-dire que les enfants, c'est dans la délégation aux droits des femmes au Sénat, parce que visiblement, ça va être les femmes qui doivent gérer ça. Non. Et c'est pour ça que je trouve que notamment les mesures comme porte là le prémisse de dire il faut un congé égalitaire, filles et garçons, ou deux filles, ou deux hommes, peu importe, mais les deux parents, pour qu'il n'y en ait pas un qui soit obligé de tout supporter et l'autre qui continue tranquillement sa carrière. Enfin, vraiment, je pense qu'il faut qu'on rééquilibre aussi au niveau de la famille. Donc pour moi, ça passe par l'éducation, par le changement de mentalité. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, pour avoir des enfants un petit peu plus âgés que vous, j'ai l'impression que vous avez moins, vraiment moins, ce différentiel et vous faites moins attention. Est-ce que c'est une fille ou un garçon? À la limite, peu importe, vous entendez bien avec, peu importe ce qu'il est. Et ça, nous, on ne l'avait pas. Donc c'est pour ça que je pense que vous allez pouvoir nous amener une richesse qu'on n'a pas jusqu'à maintenant.
Et comment utilisez-vous votre position pour promouvoir des réformes législatives visant donc à renforcer la représentation des femmes, la représentation des femmes?
Alors c'est compliqué parce qu'en fait dans la loi en tant que telle, on a déjà pas mal de choses puisque on essaye de pousser notamment, on a travaillé avec Marie-Pierre Rixin qui était présidente de la délégation aux droits des femmes sous le précédent quinquennat pour l'égalité dans le travail, l'égalité à plusieurs endroits et à mettre des choses pour pousser. Mais quelque part aujourd'hui, on a quasiment, en tout cas aux législatives, j'ai l'impression qu'on a tout pour faire. Maintenant, c'est un changement de mentalité à opérer. Et ça, ça ne se fait pas dans la loi. J'aimerais bien, mais non. Et c'est pour ça que je vous indiquais qu'il faut qu'on s'y prenne des petits. Il faut qu'on rééquilibre les livres. Mais on a aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la taxe rose. C'est-à-dire que vous avez le même jouet, par exemple un téléphone avec des boutons pour bébé. Vous en avez un bleu, un rose. Et si vous regardez bien, souvent le rose est un tout petit peu plus cher que le bleu. Et donc, il y a des choses comme ça qu'il faut, on ne peut pas faire dans la loi, mais il faut qu'on arrive à rééquilibrer. Il faut qu'on arrête aussi les catalogues de jouets où il y a pour les petites filles, pour les petits garçons. Un petit garçon a le droit de jouer à la poupée et une petite fille, elle a le droit de jouer aux petites voitures ou au combat. Il faut que ça change dès la crèche, dès la maternelle. Vraiment, ça ne passera que par là. Aujourd'hui, je pense que ce n'est plus du ressort de la loi. C'est un enjeu de société où on doit tous contribuer.
Et de votre point de vue, comment votre parti favorise-t-il la diversité et l'inclusion des femmes?
Mon parti, en tant que tel, je pense qu'il a encore aussi des progrès à faire. On a un président homme, deux vice-présidents hommes. Heureusement, on a une secrétaire générale femme. Mais on voit bien que le trio de tête est encore très masculin. Donc il va falloir qu'on se batte un peu et qu'on les bouscule. Mais non, je pense qu'il y a encore à faire dans les partis, vraiment. On n'est pas encore. Je crois qu'il n'y a aucun parti qui est encore capable de dire qu'il traite de manière égalitaire les hommes et les femmes.
Et donc, quelles initiatives soutenez-vous pour encourager la participation des femmes en politique?
Je vais dans les écoles, dans les classes, pour essayer de démontrer que c'est possible, que même quand on vient de la Nièvre, quand on a fait toutes ses études dans la Nièvre, eh bien, c'est possible, par mon exemple déjà. J'ai fait venir Yaël Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée nationale dans la Nièvre, qu'elle a rencontré des étudiants, pour montrer aussi que c'est possible. Et je pense que c'est en donnant aux jeunes filles l'exemple qu'elles auront peut-être envie d'y aller. Et en même temps, ça permet aussi aux jeunes garçons de se dire que c'est possible pour eux aussi. Parce qu'il y a aussi beaucoup de garçons, des fois, qui se disent que ce n'est pas possible. Donc, voilà, moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est aller vers vous pour expliquer que c'est possible, et qu'il ne faut pas se mettre de barrières, et que quand on a envie, il faut se donner les moyens de faire ce qu'on a envie.
Et avez-vous des projets pour augmenter la participation des jeunes femmes en politique à l'avenir?
Alors, des projets sur les jeunes femmes, moins, parce que, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, je suis sur la délégation aux droits des enfants. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire respecter les droits des enfants. Donc je pense vraiment qu'il faut qu'on passe par l'école. Il n'y a que l'école qui pourra, à mon avis, encourager les jeunes filles à y aller. Mais vous savez, il y a quelques années, quand je travaillais, il y avait une initiative que j'avais trouvée très intéressante. C'est un salon au féminin, un salon des métiers au féminin, avec que des métiers industriels, c'est-à-dire là où on n'attend pas les filles, pour montrer aux filles que c'est possible. Je crois qu'il n'y a que par l'exemple, en fait, qu'on va démontrer que c'est possible. Et y compris à l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des métiers très féminins, comme sage-femme, comme infirmière. pense qu'aussi qu'il faut qu'on puisse dire que ces métiers-là ne sont pas que des métiers féminins. Moi, je crois en une chose, c'est que notre planète est composée d'hommes et de femmes et que chacun peut avoir la place qu'il souhaite, pas qu'on lui assigne. Et je pense que c'est ça, en fait.
Oui, comme vous l'avez dit, ça passe avant tout par, par des exemples, des personnes qui montrent la voie aux autres personnes qui, justement, elles, hésiteraient. Donc, après, c'est aussi quelque chose que nous, on voit nécessairement dans nos cours, notamment en SES, où on parle beaucoup de la parité politique entre les hommes et les femmes. Et vous parliez tout à l'heure du fait que notre nouvelle génération ne prête pas nécessairement attention à quel genre, quel type de personne nous représente. Et c'est vrai que cette nouvelle notion arrive davantage chez notre génération, parce que au final, on apporte beaucoup plus d'importance aux idées qui sont véhiculées que la personne qui, justement, montre les idées.
Quand je suis entrée en politique en 2017, moi, la notion de genre, franchement, ça m'était complètement inconnue. Il y avait les garçons, les filles, et parce que j'ai toujours connu que ça, en fait. Et c'est là où vous bouleversez les codes. C'est clair. En disant, je suis ni fille ni garçon, je sais pas. Me caractérisez pas par mon genre. Je suis avant tout une personne. Peu importe le sexe que j'ai, prenez-moi comme une personne, en fait. Et je trouve ça très intéressant, même si ça nous bouscule. Honnêtement, ça nous bouscule, ça interroge. Surtout, voilà, quand on a 40 ans de stéréotypes ancré, ça interroge. Et je suis très intéressée de voir ce que ça va donner dans 15 ou 20 ans, votre affaire, en fait.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi cette discussion très enrichissante sur la représentation des femmes en politique. J'espère que cette interview incitera nos auditrices à s'engager davantage en politique. Pour toutes celles et ceux qui sont arrivés en cours d'émission, vous pouvez bien évidemment retrouver l'intégralité de l'interview sur le site BAC FM. Et encore une fois, merci Ella, merci Manon et merci Madame la députée.
Merci à vous et engagez-vous. Le monde de demain, c'est vous qui devez le préparer.
Au revoir.